שם זה מי השם עליכם תהיו לאורך חיים טובים שנים נעימים. Nous allons essayer d'analyser un point sur une des mitzvot importantes du jour de Pourim, la lecture de la Megillah. Nous allons essayer d'approfondir de quelle manière doit se faire cette lecture et quel est le sens profond que nos maîtres Mordechai et Esther et que nos maîtres ont voulu insuffler et donner à cette lecture. Alors une grande question se pose à nous. La Gemara dit, mais vatlim Talmud Torah, les Mikra Megillah. On annule l'étude de la Torah pour assister à la lecture de la Megillah. Le terme employé, mais vatlim, sous-entend que on annule la Torah, c'est comme un bitul Torah. La question se pose. Voilà que la lecture de la Megillah est aussi une occupation de Torah. Alors pourquoi avoir employé le terme mevatel, bitul Torah? Bitul Torah, c'est un peu péjoratif. Quelqu'un qui va se promener, ne consacre pas du temps à l'étude. Ou au milieu du temps consacré à l'étude, il s'interrompt pour discuter de choses et d'autres. Donc il est « Mevatel Torah ». Donc c'est une faute grave. Et là, il est dit « Mevatlim Talmud Torah » pour la lecture. Et de plus, pourquoi lire de la Megillah? La Megillah fait partie du canon biblique des 24 Sfarim qui composent le Tanakh. Donc c'est aussi de la Torah. La réponse classique que l'on donne habituellement à cette question, comme elle est rapportée dans le Rachash, dans la Gemara, c'est qu'en général, on parle de quelqu'un qui étudie en approfondissant, c'est l'étude profonde de la halakha, c'est ce qu'on appelle le ayun. Donc quelqu'un qui s'adonne à l'étude en profondeur, la compréhension parfaite des choses. Il est dans un monde, il s'est immergé dans l'océan de la chokhma, de la science. Donc pour lui, si il s'interrompt de son étude pour aller juste participer à une simple lecture, la simple lecture par rapport à l'étude approfondie est qualifiée de bitul Torah. Parce que celui qui peut, selon les capacités intellectuelles qu'il a et la possibilité qu'il a de consacrer du temps à se plonger au plus profond de la compréhension talmudique et de la halakha, et bien plus ailleurs, plus profond, et même d'autres choses, d'autres disciplines dans la Torah, en profondeur, et qui se contente juste d'une lecture, de lire des Tehillim ou de lire superficiellement certains passages, ce sera qualifié de bitul Torah. Et on ramène à ce sujet la discussion que Josué, lors du siège de Jéricho, il est dit là-bas dans la Gemara et dans les versets que Yoshua a annulé deux choses. Il a annulé le korban du Tamid, le korban quotidien, perpétuel du matin et du soir. Et deuxièmement, ils n'ont pas étudié. Ils n'ont pas eu le temps d'étudier puisqu'ils étaient en guerre. Et l'ange se présente, Yoshua voit apparaître devant lui un ange qui tient une épée. Et il lui dit, voilà, je suis un ange, tu es passible de mort. Alors il dit, mais sur quelle faute je suis passible de mort? Sur l'annulation du sacrifice ou bien sur le fait qu'on n'a pas étudié? Alors il lui dit, sur la deuxième, atabati, sur la deuxième chose. Alors la Gemara dit qu'en vérité, ils ont étudié, mais comme ils étaient en guerre, ils n'ont pas pu étudier en approfondissant les choses. Et juste après, il est dit que la nuit même, voyalen Yoshua ba'emek, Yoshua a dormi, a passé la nuit dans les profondeurs, et Chachamim disent, dans les profondeurs de l'étude. Donc de là nous voyons que si on peut s'adonner à l'étude de la Torah de manière approfondie et qu'on se contente d'une lecture superficielle ou plus ou moins superficielle, alors ça s'appelle Bitul Torah. Et de nombreux Chachamim disent que c'est à cela que fait référence cet enseignement, Mevatlim Talmud Torah, les Mikra Megillah. Cependant, cette réponse semble insuffisante, a priori, car cette halakha alors ne concernerait que les érudits qui s'adonnent à l'étude approfondie et pas au reste du peuple. La majorité d'Israël, le peuple, comme dit les maîtres, la Torah est comparée à l'eau. Et la Torah orale est comparée à l'eau et elle est comparée au vin. Elle est comparée aussi au pain. Alors le pain, c'est la Torah écrite. L'eau, c'est la Torah orale. Mais quelle sorte de Torah orale? C'est ce qui concerne la majorité des gens, les choses simples, l'alakha psuka, l'alakhot simple, de manière à savoir appliquer, on dit le kitsur, on dit l'alakha. Et le sens simple des choses, de la Mishnah simple, les choses que tout le monde peut comprendre, qui s'adressent comme l'eau. L'eau, c'est quelque chose de nécessaire à tout le monde. Et quand est-ce qu'elle est comparée au vin? Alors le vin, c'est seulement le bon vin, le vin de qualité n'est apprécié que par les connaisseurs, donc il s'agit de l'approfondissement de la Torah. Il s'agit de ceux qui s'adonnent complètement, qui ont les capacités intellectuelles pour le faire, qui ont les capacités physiques, qui ont les moyens de le faire, qui ont été éduqués et qui ont appris, donc ils peuvent s'adonner à la profondeur de la Torah. Donc on voit de là que la majorité des gens boivent de l'eau, ils ne boivent pas du vin. Alors, la majorité des gens ne sont pas concernés par cette halakha. De plus, il y a lieu d'ajouter que la lecture de la Megillah est qualifiée de pirsum anes. Nous devons lire la Megillah pour être mefarsem le nes, diffuser le nes, publier le nes. C'est ainsi que la mitzvah est définie. Alors, à quoi ça consiste? Ça consiste à dire aux gens, voilà, il y a un miracle, on raconte l'histoire. Mais la majorité des gens qui sont à la synagogue et qui viennent à la synagogue ne comprennent pas le texte qui est raconté, qui est lu. Ils n'ont pas tous accès. Ils ne comprennent, et même s'ils comprennent l'hébreu, parfois on ne comprend pas le sens caché qu'il y a. Il faut connaître, il faut avoir lu les Midrashim, il faut avoir lu les Mfarshim, il faut avoir approfondi, avoir analysé le texte pour comprendre en vérité ce qui se cache derrière ce texte. Et tout le monde n'est pas à même de comprendre le sens profond, le sens même parfois du texte. Il y a des mots qu'on ne comprend pas. Alors, et malgré tout, on assiste à la lecture. Et malgré tout, on est quitte. Alors si c'est publier le miracle, diffuser le miracle, alors il aurait été préférable peut-être de faire des fascicules, de faire des cours, de diffuser les fascicules et de lire en français, par exemple, pour la langue que l'on comprend. Et malgré tout, Chachamim ont institué la lecture de la Megillah en lâchant la Kodesh. Alors, quel est le sens de cela? Et même si quelqu'un ne comprend pas le texte, ne comprend pas l'hébreu, et malgré tout, il a entendu chaque mot, il est quitte de la mitzvah. Alors, mais quel est le sens de tout ça? Alors, il y a lieu de dire, on va essayer de dire, de répondre à ces questions. La Megillah est qualifiée dans la Megillah elle-même de Sefer. Et d'autre part, elle est appelée Igeret, une lettre ou une missive. Donc, une fois c'est marqué que c'est un livre, une fois c'est marqué une lettre ou une missive. Une missive, qu'est-ce qu'une missive, une lettre? Donc, il y a une mitzvah d'ailleurs, qu'avant de lire la Megillah, il faut la dérouler entièrement. Comme une lettre. Et imaginons que au Moyen-Âge, alors le roi envoyait des informations, il y avait le préposé à la transmission de l'information qui venait, il y avait un tambour, il rassemblait la population sur la place du village, et il disait, oye, oye, bonnes gens, écoutez, il déroulait son papier, il disait, au nom du roi, le Seigneur, Majesté, Tout-Puissant, tel et tel, voilà, il y a telle chose que vous devez savoir. Donc, il y a une nouvelle loi qui s'instaure, il y a une information, vous devez appliquer cela, ou vous ne devez plus appliquer telle chose. Donc, il raconte, c'est ça la notion de missive. C'est à l'image de se préposer à l'information qui transmet l'information. Donc, la Megillah est qualifiée des deux, elle est qualifiée de Sefer, et elle est qualifiée de Igeret. Donc, il y a, a priori, deux niveaux de lecture dans la lecture. Il y a deux facettes à la lecture de la Megillah. De sorte que l'obligation qu'ont instituée Mordechai et Esther d'en faire la lecture, elle a ces deux facettes. D'une part, la lecture elle-même, qui concerne le texte, et qui retrace les événements, qui a mené le miracle, qui s'est passé un miracle prodigieux. Et d'autre part, la manière de faire cette lecture. Il s'agit, en vérité, de faire ressentir au public, à travers cette lecture, le retournement de situation. Quel est le sens du miracle? Alors, on nous retrace qu'il y a les événements historiques, donc c'est comme une introduction. Alors, on nous dit qu'il y avait le roi, tel roi, qui a fait un trône, et au bout de 3 ans, il s'installe sur le trône, et il installe la capitale à Suse, et après cela, il fait un festin pour tous les gens importants de son royaume pendant 180 jours, et après cela, il fait un festin pour les gens de la ville de Suse, et après, la reine en fonction, ne refuse et manque de respect au roi, elle est condamnée à mort, etc. Tout ça, c'est l'introduction. Et après, que se passe-t-il? Aman, on nous raconte comment Aman, ce ministre, qu'un simple petit ministre, est devenu un homme incontournable du royaume, il a été nommé aux plus hautes fonctions. Et ce bonhomme-là désire de détruire Israël à cause d'une attitude de Mordechai, etc. Et il a fixé un jour, il demande, il obtient du roi de faire ce que bon lui semble, les missives de Haman sont envoyées aux quatre coins du royaume, etc. Et tout d'un coup, il y a un retournement de situation, et le jour fatidique que tout le monde attendait pour détruire, je sais retourner, c'est renversé. Et donc, ça, l'histoire de la Megillah, donc on a l'obligation de traduire, d'expliquer cela. Mais cette lecture ne doit pas être uniquement la narration des événements. Parce que sinon, ce n'est juste qu'un sefer. Alors, il faut la lire de telle sorte que l'on va traduire les événements comme on le fait pour la Higueret. Quand le préposé arrivait au milieu du village avec son tambour, il réunissait tout le monde autour de lui, et il ouvrait sa feuille, et il disait, oye, oye, bonnes gens, au nom du roi, voilà telle chose. Donc si, au nom d'un ministre, etc., il devait traduire l'importance de la mission qu'il est en train d'accomplir, il doit traduire et faire passer le message que c'est d'une importance capitale au nom du roi. Les gens n'ont jamais vu le roi en question, en fait. Donc il devait traduire. Donc en entendant parler, les gens prenaient garde et peur et avaient la crainte de ne pas appliquer ce que ce bonhomme-là est en train de lire. Donc automatiquement, le lecteur ne doit pas lire la Megillah comme on lit une histoire, de manière laconique. Cela n'est certainement pas suffisant. Cette lecture doit se faire de telle sorte qu'à chaque passage, on adopte le ton, l'intonation qui lui correspond. Il y a des passages qui retracent les événements, comme le début, comme nous l'avons dit. Il convient alors de les lire avec l'intonation qui convient. Puis il y a des passages qui sont des dialogues. Puis une fois, c'est le roi qui parle. Alors il faut parler comme si c'est le roi qui parle. Parfois c'est un ministre, parfois c'est Aman, parfois c'est quelqu'un d'autre. Donc il faut, à chaque fois que ce sont des paroles du roi, c'est le dialogue, alors il faut adopter l'intonation qui convient. Il faut adopter l'accentuation qu'il faut pour traduire, qu'à travers notre lecture, cela traduise véritablement le personnage qui est en train de parler. Donc c'est ça l'essentiel de la lecture. Le ton du personnage qui parle est une importance capitale. Il s'agit donc, à travers la lecture, maintenant, on lit de cette manière. Imaginez quelqu'un qui est assis à la synagogue qui entend cette lecture, on dirait une pièce de théâtre. Alors il entend, il ferme les yeux, il écoute chaque mot, et il voit, il revit, Il y a quelqu'un qui se fait, il y a dans son imagination, il revit l'événement. Il voit le roi en train de parler. Il voit Aman en train de se glorifier. Il entend Mordechai déchirer ses vêtements et hurler de douleur, de désespoir, etc. Donc ça, c'est ça la lecture de la Megillah. Il s'agit donc, à travers la lecture, de permettre à chacun d'imaginer qu'il est en train de vivre les événements. Cela est d'importance car la lecture de la Megillah n'est pas juste une lecture d'un événement passé, d'une histoire ancienne, d'une légende ou d'un mythe, mais bien celle d'une réalité présente. La conviction du lecteur, son investissement à traduire les événements par ses émotions, insuffleront à son public, à ceux qui sont à la synagogue, la émouna. C'est ça, c'est introduire la émouna et la graver dans notre cœur. Quelle émouna? Que la providence n'abandonne jamais son peuple. C'est ça le sens de la lecture. C'est en réalité le sens, l'essentiel de l'intention que Chachamim ont eu en instituant cette Megillah, les jours de Purim, jusqu'à la fin des temps et bien plus. Comme il est dit, Veyamim, alléluia, lo yasufu mizaram. D'accord? À aucune génération on n'oubliera. D'or après d'or jusqu'à, et nos maîtres disent que même après la venue du Mashiach, on continuera à raconter la Megillah d'Esther. Le lecteur prendra soin de bien prononcer chaque mot, chaque phrase par une élocution parfaite, en respectant la ponctuation des signes de quantillation, des ta'amim. Et là, c'est d'une importance extrême, fondamentale et capitale. C'est les ta'amim qui donnent justement à la lecture la résonance de cette dimension du vécu. Les signes de quantillation ne sont pas juste un chant. Ils sont indispensables à la compréhension, nous disent les Chachamim, que les ta'amim sont indispensables à la compréhension du texte. Ils sont précisément parce qu'ils sont chantés, ils sont l'expression des émotions et des sentiments qu'il est indispensable d'associer et de mettre à travers la lecture, de traduire dans la lecture. En effet, ils permettent la compréhension du texte. Et nous dit le Harizal qu'ils sont à un niveau encore plus haut spirituel que les lettres, les couronnes qu'il y a sur les lettres qui sont écrites, les voyelles, les ténorotes qui permettent aux lettres, qui font que les lettres vivent, qui ne sont plus, ça c'est les voyelles, à Kamas, Pata, etc., qui sont d'un niveau beaucoup plus haut que les lettres elles-mêmes. Et au-dessus de ça, il y a les ta'amim. Ces ta'amim-là sont d'un niveau, c'est ce que le Harizal explique dans le Tanta, le fameux Tanta, qui sont les quatre niveaux de l'écriture de la Torah. Il y a deux niveaux écrits qui sont, comme nous l'avons dit, la lettre et les couronnes qu'il y a sur les lettres. Et il y a deux niveaux qui ne sont pas écrits, qui sont les voyelles, qui ne sont pas inscrites dans le livre, et les ta'amim. Donc, en vérité, en quoi les ta'amim sont plus hauts que les que les voyelles, parce qu'ils expriment les émotions. Le chant doit exprimer les émotions. Et c'est l'essentiel de la lecture de la Torah. Quand nous lisons avec les ta'amim, ce n'est pas un chant qui vient se greffer sur la lecture. C'est la valeur même de la lecture. Le ta'am, c'est la ponctuation, c'est le sens de la lecture. Si on ne met pas le ta'am, nos maîtres disent à plusieurs reprises, en plusieurs endroits, que le ta'am, que les signes de quantillation donnent la compréhension au texte, et c'est l'expression de cette compréhension, le vécu de cette compréhension. Donc ils sont à un niveau extrêmement élevé. Il est alors possible d'expliquer, alors si c'est comme ça, nous pouvons expliquer ce que nos maîtres nous commandent d'annuler l'étude de la Torah pour que tous se rassemblent afin d'écouter la Megillah. Car cette lecture comporte une dimension qui ne se retrouve pas ailleurs, même dans l'étude approfondie. C'est vrai que quand on est dans l'étude approfondie, alors si on s'arrête d'étudier pour écouter la Megillah, c'est par rapport au limoud de la Torah, c'est un bitoul Torah, c'est vrai. Mais malgré tout, ils l'ont institué. Pourquoi? Parce que la lecture de la Megillah contient beaucoup. Il y a une nekouda, un point fondamental, capital, essentiel, qui est contenu dans la lecture de la Megillah, qui ne peut se trouver que dans la lecture de la Megillah et pas ailleurs dans l'étude. C'est pour ça qu'ils expriment ça par le mot bitoul Torah. De telle sorte, la lecture en lisant de cette manière-là, comme nous l'avons dit, c'est du vécu du miracle qui grave dans, en nos cœurs la certitude du miracle, de telle sorte que même si certains ne comprennent pas la lecture, comme nous l'avons souligné plus haut, s'ils ne comprennent pas la lecture, à quoi ça sert ? Ils sont là, ils entendent, ils ne comprennent pas ce qui se dit. Et malgré tout, ils sont quittes. Alors, quelle est la dimension ? Malgré tout, ils seront marqués au plus profond de leur être par la forme de cette lecture. Le lecteur sera alors dans le rôle du témoin qui raconte un événement exceptionnel auquel il a assisté. Ce qui sera entendu par son auditoire comme un récit absolument véridique. Aucun doute que tout cela est vrai, se diront tous ceux qui assistent à ce témoignage. On peut entendre parfois un événement aux informations, le speaker donne l'information de manière laconique. Et après cela, bon, ça fait pas un grand effet. Et après cela, l'envoyé spécial sur les lieux prend un témoin et l'interroge. Et là, on voit que le témoin répète mot pour mot ce que le speaker a dit, mais là, on voit qu'il exprime cela avec le vécu, avec ses émotions, son agitation. Il a assisté à la chose. Donc, quand on entend un témoin qui exprime les choses avec toutes ses émotions, alors à ce moment-là, on est persuadé et on prend la valeur de l'événement, la gravité. On ressent la situation dans laquelle a vécu, que le témoin a subi ou a vécu ou a assisté. Donc le lecteur est dans ce rôle du témoin, qui raconte un événement exceptionnel auquel lui-même a assisté, ce qui sera entendu par son auditoire comme un récit absolument véridique, comme nous l'avons dit. C'est le sens de diffuser le message, c'est ça, diffuser et de publier le miracle. Ce secret contenu dans la lecture de la Megillah sera, en vérité, il doit être aussi exprimé dans les mitzvahs du jour. Le secret du vrai service divin, en fait, et d'exprimer par des émotions les concepts étudiés et maîtrisés intellectuellement. Prenons un exemple. Tous les matins, nous mettons les tefillines. Nous les prenons, nous les attachons, nous venons à la synagogue, nous mettons ça, on réfléchit même pas, on le fait. Pourquoi le fait-on ? Parce que c'est notre devoir, nous appliquons à travers ça la volonté d'Hachem. Pour la majorité, ça se fait naturellement, sans trop réfléchir. On accomplit son devoir. Mais tu te dis, sache que les tefillines que tu tiens dans tes mains, que tu vas placer sur ton bras et sur ta tête, sont un joyau précieux. Ils sont bien plus chers, plus importants que les joyaux de la couronne d'un roi puissant. Imagine que cette coque de cuir, ces lanières et les parchemins qu'elle renferme sont des diamants de 100 carats, d'une valeur inestimable, qui sont bien plus chers que toutes les réserves d'or que renferment les banques centrales des pays les plus puissants. Avec cette vision des choses, quand tu les porteras véritablement, comme si tu portais un véritable joyau, en exprimant ta joie, ton bonheur, ton enthousiasme, ta passion et ton immense plaisir. Imaginez, vous, quelqu'un qui a les moyens, il s'achète une montre à 50 000 euros, il s'achète un diamant. Alors quand il le porte, il est heureux, il est transporté par la joie, le bonheur de porter, d'avoir les moyens de s'acheter une telle chose, mais aussi de les porter. Mais même pour un homme simple, il s'achète un costume neuf, un beau costume, quelque chose, il a fait une affaire, il s'est acheté un costume à 500 euros qui vaut 5000. Imaginons, quand il le porte et il va à un mariage, alors il est heureux, il est transporté par la joie de porter quelque chose de valeur. Et c'est comme ça qu'il faut porter les tefillines. Avec cette vision des choses, quand tu porteras les tefillines, véritablement comme si tu portais un joyau précieux, en exprimant ta joie, ton bonheur, ton enthousiasme, ta passion, ton immense plaisir, assurément ta mitzvah est d'une autre dimension. C'est le sens de cet enseignement des maîtres. Grande est l'étude qui amène l'homme à accomplir les mitzvot. Gadol alimud shemevi ledemaasé. C'est quoi l'idemaasé? C'est-à-dire que quand tu étudies, tu comprends les choses, la valeur des choses, tu comprends comment il faut appliquer la gravité ou l'importance de la mitzvah, la valeur de la mitzvah, c'est ça le sens de l'étude. Comment la Torah rentre dans le moindre détail du détail du détail pour nous dire que chacun des détails ressemble est d'importance. Parce que si vous avez un diamant de 20 carats, mais qui a à l'intérieur une scorie, une saleté ou une trace, donc il faut absolument que le tailleur de diamant l'enlève. Parce qu'à ce moment-là, la valeur du diamant est perdue, est baissée. La même chose, si la Torah rentre dans tellement de détails, dans l'accomplissement de moindres détails, de petites choses qui apparemment sont insignifiantes. Pourquoi on dit c'est insignifiant? Parce qu'on ne connaît pas la valeur de la mitzvah. Mais si vous avez un tableau d'un maître, d'un Rembrandt ou d'un Monet qui a une trace, donc il faut l'arranger. Il faut, si y a un scorie quelconque, une petite chose, ça fait perdre la valeur au tableau, aux bijoux, aux joyaux. La même chose. La mitzvah est d'importance terrible. Gadol alimoud chez mes villes et des masses. C'est parce que en étudiant, je vais accomplir la mitzvah d'une autre dimension, avec, comme nous l'avons dit, ferveur, enthousiasme, passion, bonheur, joie. Et tout ça est exprimé par nos sentiments. Dans le même ordre d'idée, à la fin de la Megillah, il est dit, « La Yehudi ma'ita ora ve'simha ve'sasandika » Pour les Juifs, c'était joie rayonnante. Ora, contentement, allégresse, marque d'honneur. Tout ce verset est analysé par nos chachamim et fait référence au mitzvot. Aura, c'est la joie rayonnante, la lumière, c'est l'étude. Simha, c'est la joie des jours de fête. Sasson, l'allégresse, c'est la Brit Mila. Et Yekar, les marques d'honneur, renvoient à la mitzvot des tefillin. Le verset souligne, justement, qu'Apourim se produisit ce renouveau dans l'application des mitzvot. Ils ont alors, précédemment, Aman dit à Hasverosh, il y a un peuple qui dort. Yeshno Amechad. Et Chacham dit, c'est sur quoi Yeshno? Allusion à Yashno. Ils dorment. Ils sont endormis dans les mitzvot, nous dit la Gemara. Et même Akadosh Baruch Hu est tombé en sommeil, est en torpeur. Comme dit Arisa, c'est la dormita, c'est la période de la face cachée, qui semble cachée. Donc ils se sont laissés aller dans les mitzvot. C'est à quoi ils accomplissaient les mitzvot, mais ils dorment dans les mitzvot. Ils accomplissent de manière, les mitzvot de manière routinière. Ils sont dans l'application, mais de quelle manière tu appliques? Si Béhémet, la paire de tefillin que tu portes, c'est le joyau plus cher que la couronne d'Angleterre, de quelle manière tu vas le porter? Comment tu vas? Tu vas pas attendre 6 heures de l'après-midi pour aller attendre qu'il y a le chaliard de Chabad qui passe pour que tu tendes ton bras pour mettre les tefillin. Tu vas comprendre. Le matin, je cours pour accomplir la mitzvah. Je vais pas attendre que quelqu'un me vienne. Je suis pas handicapé pour attendre que quelqu'un me vienne me les mettre. Je vais courir de moi-même pour les porter, pour les acheter. Je m'empresse d'accomplir la mitzvah. La même chose pour toutes les mitzvot. Si nous comprenons la valeur des mitzvot. Et là, il est dit qu'après Pourim, que par le renversement de situation, ils ont pris conscience que chacune des mitzvot doit être accompagnée justement de cette ferveur, de la traduction des émotions, l'attachement à Kadosh Baruch Hu. La mitzvah n'est plus alors faite parce qu'on a peur qu'il nous arrive quelque chose, ou par routine, ou par habitude, ou parce que c'est comme ça qu'il faut la faire. Il faut faire ça, c'est ça notre lot, nous sommes juifs, nous accomplissons la Torah, nous mangeons kasher. Non! La mitzvah est faite parce qu'à chaque fois que j'accomplis une mitzvah, à chaque fois que je mange kasher, kasher c'est plus cher, on entend continuellement cette expression, c'est vrai, kasher c'est plus cher. Acheter une paire de tefillin, ça coûte 500 euros, 1000 euros, et certains payent même plus cher. Une mezouza, ça coûte 50 euros, 100 euros parfois, etc. La mitzvah, elle coûte. Mais je suis heureux de la faire parce qu'à chaque fois que je fais une mitzvah, je m'imagine, j'achète kasher, ça me coûte. Mais c'est comme si que j'ai fait des économies et que j'ai acheté un joyau, un bijou ou bien un diamant que je vais monter et placer sur la couronne d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça que je dois exprimer l'amour que j'ai vis-à-vis d'Hachem. Je suis honoré d'avoir été choisi, de pouvoir acheter seulement en achetant de la viande cachère, ce prix que j'ai payé, cet effort que j'ai fait, est un joyau, et je suis heureux de le faire, que je mets sur la couronne de Dieu. Alors à ce moment-là, ça est écrit. La yodi maïta ora ve simha ve sason vika. Et tous ces termes ne sont que l'expression de leurs émotions qu'ils ont exprimées. À ce moment-là, alors ils ont exprimé et accompli la Torah avec, en exprimant toutes ces émotions. L'amour, ça veut dire quoi? Aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est faire les mitzvot avec ferveur, enthousiasme, passion. C'est ça l'idée. Tous ces termes ne sont que l'expression de leurs émotions qu'ils exprimeront à présent en pratiquant les mitzvot. À nous, à présent, nous, à notre génération, d'être les disciples de cette génération-là. Et d'être fidèle à l'enseignement de Purim. Et c'est ça, le fondamental de la lecture de la Megillah et des autres mitzvot de ce jour. Yeratzon, que nous sachions, incruster, graver en notre cœur, la ferveur, la passion, l'enthousiasme, la certitude que la providence n'est jamais en sommeil, qu'à aucun moment de notre histoire, malgré toutes les vicissitudes et les problèmes que nous avons eu à surmonter, à jamais, à aucun moment, Akadosh Baruch Hu nous a abandonnés. Et de la même manière que alors, Akadosh Baruch Hu a fait ces miracles et ce renversement de situation, cela se peut se produire à chaque instant, Bebiat Goel Tzedek Bimera Beamenu, Yeratzon, que tout se passe un Purim de joie et d'allégresse, et que nous sachions adopter cette allégresse et aller de l'avant jusqu'à Pessah, qui Bezat Hashem Bekarov Beamenu, le Mashiach arrive. Baruch Adonai Leolam, Amen Ve Amen.